On parle de chaos, Claude.
Ce mot qui, selon le Larousse en ligne, désigne un grand désordre, la ruine, la destruction, se retrouve aux unes des DNA, de la Dépêche, du Progrès, de la Marseillaise et de la Voix du Nord, comme dans un tour de France de la sidération, après que l'émeute ait fait trembler la démocratie américaine. Sidération encore dans le titre blessé de l'Est républicain, impensable, point d'exclamation. Le titre est illustré de la photo d'un manifestant posant près d'une statue dans les couloirs du Congrès. Il a installé sur la main de la statue son drapeau trumpien. Vous irez contempler les images de l'émeute sur les sites du Monde, du Figaro, de Libération, de Sud-Ouest, du Parisien. Vous irez revoir ce Trumpien au visage peinturluré, vêtu d'une peau de bête, et ses acolytes qui prenaient des selfies dans le cœur profané de la démocratie américaine. Un homme arpentait le Capitole portant un drapeau de la Confédération sudiste, cette dissidence esclavagiste que les États-Unis avaient dû réduire. Sur le site du Washington Post, une éditorialiste commente ainsi cette photo. Brandir le drapeau du fascisme pour Donald Trump. Je lis que cette éditorialiste s'appelle Robin Givan. Elle est passée par la grande université de Princeton. Je vois qu'elle est jeune et je vois qu'elle est noire. Faut-il être noir pour dire simplement que le drapeau confédéré est un fascisme américain ? Et c'est ainsi que des journaux nous arrachent à la sidération et posent politiquement ce qui est arrivé. Et non, ce n'était pas impensable. Libération, titre sur la stratégie du chaos de Trump, c'est le mot stratégie qui compte. Mais allez lire surtout sur le site du Monde l'éditorial d'une signature respectée du journal, Sylvie Kaufmann. Son article est titré ainsi « Donald Trump, le président insurrectionnel ». Kaufmann parle d'une foule d'émeutiers que le président des États-Unis a dirigé. Et vous lirez cette journaliste avec d'autant plus d'attention que dès hier, avant l'émeute, son texte est encore en ligne et résonne comme une prophétie. Elle constatait la fragilité de la démocratie américaine au terme du mandat de Trump. Ce matin, Kaufmann est en phase avec la grande presse des États-Unis. La une du New York Times est barrée de ce titre « Trump incites mob », Trump incite la foule, mais le mot mob est plus violent que sa traduction française. Le New York Times tient officiellement Donald Trump comme responsable de l'envahissement du Congrès. Le Washington Post va plus loin encore et ses éditorialistes encerclent le président. Trump a commis une trahison, lis-je. Trump est coupable de sédition, lis-je encore. Le Washington Post demande officiellement le départ du président. Il n'est pas en état de rester en place pendant encore 14 jours. Chaque seconde où il conserve les immenses pouvoirs de sa présidence constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale. Le vice-président Pence devrait invoquer le 25e amendement pour déclarer que le président est incapable d'assumer les pouvoirs et les devoirs de sa charge. Sur ce 25e amendement, inventé après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, pour suppléer un président défaillant physiquement ou mentalement, mais aussi sur les demandes qui montent d'une autre procédure, l'impeachment, allez lire le site de West France qui nous guide ce matin utilement.
Alors ça, vous parliez du New York Times et du Washington Post, mais Donald Trump conserve des soutiens.
Et l'agence France Presse nous rapporte que les médias acquis au président tantôt diminuent l'offense, tantôt entonnent des refrains complotistes. Ceux qui ont envahi le Capitole étaient des Antifa sous couverture, a pu affirmer une présentatrice de Real America's Voice, un des canaux de la désinformation. L'Amérique trumpienne ne va pas disparaître, elle s'est même solidifiée derrière son héros, et ce qui est arrivé, devine-t-on, va confirmer son sentiment d'un jeu truqué d'avance. Le Monde a accompagné les manifestants pro-Trump qui étaient venus se faire haranguer par leur président avant la marche vers le Capitole. C'est une foule pitoyable et blessée. Tout cela, c'est de la foutaise, c'est de la fraude évidente, on va se faire baiser. Cette foule trumpienne compte désormais une martyre. Elle s'appelait Ashley Babbitt. Elle a été tuée par la sécurité du Congrès. Elle avait été militaire, une jeune femme au visage net, dont vous apercevrez la mort sur YouTube, mais aussi des moments de vie. Elle était convaincue. Et en la regardant, vous ressentirez la fracture de l'Amérique et la justesse des mots hier de Sylvie Kaufmann dans Le Monde. Donald Trump laissera un paysage politique miné par le mensonge, 74 millions d'électeurs avides de revanche ou désorientés et une armée de convertis républicains prêts à poursuivre son combat. Sur le site du New York Times, qui suit en direct la session de certification de l'élection qui a repris au Congrès libéré des émeutiers, vous allez constater qu'en dépit des appels à la raison, les plus engagés des élus trumpiens, 7 sénateurs et quelques dizaines de représentants, continuent de ralentir le processus en réclamant des annulations de scrutin. Ils reprennent alors des inventions de fraude, d'électeurs inventés. Ils sont battus dans les votes, mais ils persistent. Le New York Times réfute un à un leurs mensonges, mais le peuple de Trump lit-il le New York Times ?
On peut se le demander. Et on parle enfin de la Géorgie.
Qui, dans le chaos, est presque sortie de l'actualité, mais qui pourtant s'est montrée décisive, en votant pour Biden d'abord, puis en élisant 2 sénateurs démocrates qui garantissent au nouveau président un Sénat à sa main. Mais cet État, la Géorgie, est aussi fort de symboles et la double élection sénatoriale remue une histoire tourmentée. Ont été élus un pasteur noir, Raphaël Warnock, et un jeune homme de confession juive, John Ossoff, et ce n'est pas neutre dans un état symbole du Sud profond et de la violence raciste. Le Washington Post rappelle qu'en 1868, la Géorgie venait d'être réadmise dans l'Union, le Parlement de l'État expulsa de ses rangs 30 nouveaux élus car il était noir. Une foule emmenée par un shérif tira ensuite sur une manifestation de protestation. Exclus de la politique, les Noirs se replièrent sur leur paroisse. Martin Luther King était en Géorgie. Raphaël Warnock ressemble à son accomplissement. Le journal juif Le Forward et le journal israélien Haaretz rappellent de leur côté que les Juifs payèrent leur écho au racisme géorgien. Une foule en 1915 l'instinct un jeune patron d'usine nommé Léo Franck. John Ossoff a subi des attaques antisémites pendant la campagne. Il dit que ses origines l'ont amené à s'engager. Il forme avec Warnock une alliance retrouvée qui a près de Joe Biden un goût d'Amérique.
Merci Claude. France Inter.